Chapitre 12. J'ai reçu hier le notaire Acarin et je lui ai remis mon testament. Je lui ai donc confirmé ces petits arrangements dont nous avions convenu. Le frère Benoît, supérieur des frères mineurs, était debout devant la fenêtre. Il n'aimait guère ce genre de conversation qui devenait décidément l'ordinaire de son ami, resté assis dans son fauteuil. Cet embarras se devinait au mouvement de la grande robe de bure qui s'agitait nerveusement dans la lumière. « Très bien, il sera fait comme tu l'as voulu. Je laisse à ta maison 20 florins pour ce service. C'est une belle somme, je t'en remercie, en notre nom à tous. C'est que je pèse mon poids, vous serez peut-être moins heureux quand vous devrez me porter jusqu'à votre cloître. Quant à toi, en souvenir de notre vieille amitié, je te laisse ma mappemonte. Je sais que vous pratiquez la pauvreté et n'avez point de bien propre, aussi l'ai-je donné à votre ordre, mais c'est à toi que je le destine. » Le franciscain saisit avec émotion la main du vieil homme, puis alla au globe poli, qu'il fit tourner lentement. « Cela me touche vraiment, c'est un bien bel objet. Tu me connais bien, il est vrai que nous avons toujours eu plaisir à le regarder ensemble. Il nous apprend la modestie. » On voit parfois des images de saint François méditant devant un crâne. Je te vois en saint Benoît méditant sur la carte du monde. L'autre rit, puis après un moment interrogea plus sérieusement le vieil homme. « Pourquoi as-tu choisi les frères mineurs plutôt qu'un autre ordre ? Ça, ne suis-je pas un peu des vôtres ? Vous êtes la cause, ou plutôt l'occasion, de ce qui m'est arrivé jadis. Et c'est grâce à vous aussi que j'ai pu vivre tranquille toutes ces années. » Alors qu'en bonne logique, on aurait dû m'expédier à Patres depuis bien longtemps. Oh, tu sais que je ne suis pas grand-chose dans tout cela, c'est comme si tu me parlais chinois. J'ai fait serment de me taire tant que je vivrai, mais rassure-toi, le moment est bientôt venu où tu sauras. J'ai raconté tout cela, avec bien d'autres choses, dans un récit de ma vie que j'ai passé 3 ans à écrire. Voyez-vous cela, le cachotier, il ne m'en avait rien dit, mais voilà qui est fait. Et ne te plains pas, tu es le premier à le savoir. Qu'est-ce qui t'a décidé à faire ce récit, encore ce besoin de laisser quelque chose qui te survive au cas où tes musiques n'y suffiraient pas? Sans doute, monsieur mon confesseur, mais l'envie aussi de raconter au mien tout ce que j'ai pu voir dans ma vie et qui ne fut pas ordinaire. L'envie de me souvenir de tous ces gens que j'ai fréquentés de près et de loin. Les grands, tout le monde les connaît, mais les petits, il n'en restera peut-être d'autres traces. Toutes ces envies et la nécessité aussi d'expliquer ces petites choses qui te paraissent encore bien mystérieuses, comme les 3 rois qui nous regardent de leur vilaine figure, comme ce tableau en effet. Mais pour revenir à ta question, me voyais-tu confier mon corps aux jésuites? C'eût été piquant, je sais qu'il y a entre eux et toi une histoire mouvementée, j'en connais la fin puisque nous y avons été mêlés, mais non le début. J'ignore pourquoi au juste ce père Sacchini est venu jusqu'ici l'autre jour. Tu le sauras bientôt, du moins pour ce que je peux en savoir moi-même, car ce sont des gens plus malins que moi. Ils ont l'esprit bien tortueux, et on n'est jamais sûr avec eux de connaître le fin mot de l'histoire. C'est ce qu'on dit, mais on exagère sans doute. Hein, penses-tu, tiens, on ne peut mieux les dépeindre qu'avec l'affaire de ce fameux décret de pureté de sang là, qui interdisait à la compagnie aux descendants des Juifs et des morts. Oui, alors que le premier successeur de Loyola lui-même était de sang juif, nous en avons parlé, toujours à propos de ce Sacchini. Précisément, eh bien, ils ont ajouté par la suite un bout de phrase à cet article de leur statut. « Ne sont pas interdits comme tels les descendants de juifs et de morts, mais bien les descendants de juifs et de morts qui sont considérés comme infâmes. » Ah oui, de sorte que de la façon dont on dit la chose, on peut la comprendre de deux manières. Soit juifs et morts sont infâmes par nature et donc interdits, soit on ne les proscrit que qu'ils sont infâmes, ce qui laisse ouverte la porte à ceux qui sont d'honorables familles et bonne réputation. Tout juste, on a beau dire que la plus grande gloire de Dieu excuse tout cela, l'impose même, pour moi ce n'est que fausseté, comme j'appelle cupidité, leur zèle à s'enrichir, et intrigue, leur sens de la politique. Et tu voudrais me voir enterré avec eux? Ah, je préfère encore la fosse commune de la paroisse Saint-Michel. Et à la rigueur, je préfère encore ne pas mourir du tout. Non, si j'ai choisi votre cloître devant la petite chapelle, c'est que l'endroit me plaît. C'est aussi chez les frères, qu'ils soient récollés comme toi, capucins ou déchaussés comme en Espagne, que j'ai trouvé le plus d'hommes simples, sincères et bons. Ce compliment me fait bien plaisir, mais tu exagères, ou tu as vraiment eu de la chance dans tes rencontres. Et quant aux dominicains, s'ils sont plus honnêtes que les jésuites, ils sont par contre un peu fous. J'ai lu la vie de saint Dominique, et bien tout par-delà. Dominique a passé sa vie à pourchasser les cathares, ce qu'on appelait les parfaits, alors que lui-même menait en tout la vie d'un parfait. Ne faut-il pas avoir l'esprit un peu tortueux pour en arriver là? C'est pour cela qu'ils ont été chargés de l'inquisition. Tu es converti, chrétien comme moi, soit, mais s'il y a dans ton signe de croix une façon qui prouve que tu n'es pas sincère, je vais te tourmenter pour te faire avouer. Tu affirmes que la terre se meut dans l'univers. Alors, je n'y suis pas allé voir, l'évangile n'en dit rien, et à vrai dire, je n'en sais rien, mais ce n'est pas s'il convient de penser, et je t'enverrai au bûcher pour ton bien et ton salut. Voilà les dominicains. Allons, encore une fois, tu forces le trait. À peine, et puis d'ailleurs, les dominicains n'ont pas de maison ici, tu vois, je n'avais pas d'autre choix que vous. Nous n'étions plus qu'à trois petites étapes de Namur, et l'excitation de revoir mon pays natal l'emportait progressivement sur le malaise des derniers jours. J'observais le pays plus attentivement que jamais, m'efforçant d'y retrouver ces impressions indéfinissables que j'ardais de l'enfance. En vain, 23 ans plus tôt, j'avais quitté ma ville par le nord sur une image de 12 ondulations baignées de lumière et de vert tendre. Aujourd'hui, en m'en approchant par le sud, je traversais des pays abrupts et rudes avec de sombres forêts coupées de vals encaissés. Tout changea au soir du 2e jour quand le chemin, tout à coup, dévala vers la vallée et la petite ville de Bouvigne où nous devions faire notre dernière étape. Bouvigne est sur la rive gauche de la Meuse et on y arrive en bac sans passer par le pont de Dinan, ville liégeoise et éternel ennemi qui lui fait face. Nous retrouvions aussi le fleuve, plus digne de ce nom, grossi depuis la France de quelques affluents. La vallée n'a pas encore là l'ouverture qu'elle prend à Namur, mais on sent déjà plus de douceur, un air moins vif, une sorte de bonhomie dans le paysage, où les prés et les champs semblent semer en tous sens, du haut des collines jusqu'au bord de l'eau, comme de petits carrés d'un damier disloqué. Cependant, ce qui me frappa le plus, ce fut le langage des gens de ce lieu. J'avais oublié jusqu'à l'existence du parler du bon peuple de chez nous, si différent de la langue française dont use la belle société. Il me revenait d'un coup et je le comprenais. Je me faisais l'impression d'être de ceux qui, par miracle, entendaient les apôtres au jour de la Pentecôte. De Bouvigne à Namur, il n'y a que 5 lieues que nous courûmes à toute allure. Nos mulets faisaient feu de 4 fers, ils dépassaient même les chevaux, tant nous les pressions. À ce train, nous fûmes bientôt aux portes de la ville. Le quartier de Notre-Dame, où vivent les miens, s'étire entre la Meuse et le château, à l'entrée de Namur, par le chemin d'où précisément nous arrivions. En franchissant la vieille porte de Notre-Dame, je me revis gamin perché sur un mur ou un talus à moquer les voyageurs. Quelle rosserie aurais-je lancé jadis à la vue du gras prélat rougi par la course et accroché à sa monture que j'étais aujourd'hui. Je reconnaissais la rue, le château, mais mon Dieu, que cela me semblait petit. La collégiale Notre-Dame, qu'aux yeux du souvenir je voyais égale aux cathédrales de Valladolid et Salamanque, qu'elle était menue avec son transept trapu, sa pierre grise et ses ardoises disjointes. La maison familiale était là, à 2 pas, de l'autre côté de la rue, toute petite aussi. L'émotion m'étreignait, j'en avais les larmes aux yeux. Je dis à Inigo de rester là avec notre équipage et aller frapper à la porte. Cette bonne grosse femme qui m'ouvrit, c'était évidemment Antoinette. Ce ne pouvait être qu'elle. Son bon visage exprima une brève surprise, suivie aussitôt de l'empressement qu'on doit aux gens d'église, mais comme je restais là, les bras ballants, l'air idiot sans doute, elle hésita. Après un bon moment à me regarder, la voix étranglée, elle ne dit qu'un mot. Jeannot. Elle m'avait reconnu sans me connaître. À notre émotion se mêlait une sensation curieuse. Nous n'avions l'un de l'autre que le vague souvenir des enfants que nous étions jadis et nous étions construits par la force de l'imagination et les impressions tirées de notre correspondance, une sorte d'image de ce que nous devions être. Eh bien, c'était ça et ce n'était pas ça, sans que je puisse dire au juste quel trait du portrait pouvait n'être pas ressemblant. Mais si les hommes ne sont jamais tels qu'on les voit, comment pourraient-ils être tels qu'on les imagine? Les Dufond ne sont pas gens à s'émouvoir. Tout de suite, elle s'empressa, courant en tous sens, s'activant à me faire entrer, s'enquérant de mes affaires, aussi familière que si elle m'avait quitté la veille. Au fond, c'était plus facile ainsi. « Mais, mon Jean, pourquoi ne nous as-tu pas prévenu? Rien n'est prêt pour te recevoir. » C'est que mon voyage s'est décidé assez vite, et si même j'avais écrit, ma lettre serait sans doute arrivée après moi. Et tu reviens pour toujours? Non, non, rassure-toi, nous reparlerons de tout cela. Ah, c'est heureux que grâce à toi, nous n'ayons point de soldats. Comment aurions-nous logé? Ah, tu vois, tout va bien. Ah, tu nous as rendu là un fier service. C'est une misère que les hommes d'armes, il en vient encore tous les jours, et on dit qu'ils vont y passer l'hiver. Tout en causant de la sorte, je me séparais du frère Inigo qui avait été mon compagnon pendant les 3 gros mois qu'avait duré ce voyage. Il ne voulut même pas entrer et partit avec son mulet jusqu'à une maison de son ordre, au-delà de la Sambre, dans la rue de la Marcelle. Un petit garçon accourut, intrigué par ce mouvement, hésitant à entrer. Je lui trouvai un air de famille. Toi, lui dis-je, je gage que tu es Jean Léonard et qu'on t'appelle Jeannot, pas vrai? Oui, monsieur l'abbé. Quel âge as-tu?
9 ans.
Eh bien, Jeannot, quand j'ai quitté cette maison, j'avais à peu près ton âge, et voici que j'y reviens pour la première fois.
Vous êtes mon oncle Jean?
Ah, tu me connais, on t'a parlé de moi. Si on m'en a parlé, oh là là! Et ce disant, il secouait la main avec conviction, laissant entendre qu'on ne lui avait parlé que de cela ou presque. Il parut soudain inquiet. Dites, vous n'êtes pas venu me chercher pour m'emmener avec vous en Espagne? Mais non, quelle idée! C'est que je chante à Notre-Dame, maman me dit que si je m'applique, je pourrai bientôt partir chez le roi, comme vous. Et tu n'en as pas envie?
Non, mais je ne lui dis pas pour ne pas la peiner.
Eh bien, Jeannot, rassure-toi, je ne suis pas venu te chercher, et tu peux chanter du mieux que tu peux, comme dit ta maman, il y a belle lurette qu'on n'envoie plus en Espagne les petits chanteurs de ce pays. Je fis le même soir la connaissance de mon beau-frère. Sachant son état, je m'attendais à le voir arriver chargé d'escalopes et portant au cou un chapelet de saucisses. Point du tout, Simon Léonard occupait dans sa corporation une charge qui le dispensait du billot et du hachoir, et il était pour son ministère vêtu en bourgeois. Il ne fut pas peu surpris de me voir débarquer chez lui, et s'il en fut contrarié, il eut la grâce de n'en rien laisser paraître. Dans les premiers jours, je vis défiler beaucoup de monde en notre maison. Tout était prétexte à visite, un peu de sel à emprunter, une chandelle à rendre, un chien perdu dont on s'enquérait. Antoinette était ravie de ce va-et-vient qui la flattait, et je la soupçonnais même de l'encourager. Je me faisais l'impression d'être une bête curieuse comme celle qu'on ramenait des Indes pour les montrer parfois dans les jardins royaux de Madrid. Je devais en prendre mon parti. Ma sœur était bavarde et avait fait de moi, aux yeux des voisins, une sorte de grande Espagne. Pour elle, je devais être là-bas quelque chose comme un cardinal intime des souverains. Quand, vidant mes sacs, j'avais sorti la barquette en argent que m'avait laissée en souvenir Marguerite de Valois, elle n'était pas loin de penser que j'avais fait une faveur à cette princesse en l'allant visiter. La pauvre, si elle avait su dans quelle hâte et quelle inquiétude j'avais quitté l'Espagne. Mais c'est surtout l'exemption que j'avais obtenue pour elle de loger la troupe qui me valait la considération. C'est que le règlement affiché dans la ville précisait bien que pour éviter plaintes et lamentations infinies, nul bourgeois ni manant ne pourrait en être quitte, sauf évidemment les ecclésiastiques, le magistrat et les membres du conseil provincial. Même si l'on n'est tenu que de donner aux soldats le lit et la chambre, sans leur fournir huile, ni vinaigre, bois, ni feu, même si les garces suivant la troupe devaient trouver à se loger à leurs dépens, c'était une calamité d'avoir chez soi un de ces soudards. Ne fallait-il pas être bien puissant pour favoriser ainsi les siens par un simple passe-droit venu de l'autre bout de l'Europe? La plus curieuse impression que je garde de ces premiers jours est une sorte de trouble. Je me trouvais soudain, et pour la première fois de ma vie, sans rien à faire. Plus de messe à chanter, de chapelle à faire travailler, de route même à reprendre le lendemain. Je m'étais fait une joie de ce repos sans contrainte qui m'avait semblé le comble de la félicité, mais c'était manqué. Je me trouvais vite comme un oiseau en cage, me demandant, en me levant matin, ce que je ferais de ma journée. L'homme est ainsi fait qu'il ne peut rester à ne rien faire, et il lui faut toujours s'agiter, penser à quelque besogne, s'étourdir de la société de ses semblables qui s'étourdissent avec lui. Ma principale occupation à ce séjour fut de parcourir ma ville. À vrai dire, je n'en reconnaissais rien, et c'était en vain que je recherchais les impressions de tel ou tel lieu gardé en moi depuis l'enfance. Namur, cependant, n'avait pas tant changé que le regard que je portais sur elle. Certes, la paix revenue avait amené la passion de construire beaux et bons bâtiments, comme cette Al-Alcher que mon beau-frère tâta à me faire visiter, et nombre de nouvelles maisons religieuses, mais il n'y avait pas là de quoi m'égarer à ce point.
Somme toute, la cité n'était pas grande. Elle aurait tenu tout entière dans un quartier de Madrid ou de Paris et pouvait compter tout au plus 8 000 âmes. Si donc je ne la connaissais plus, je la redécouvris peu à peu. Selon mon humeur ou le temps qu'il faisait, je flânais à l'ombre de Saint-Jean ou de Saint-Aubin, ou bien je poussais jusqu'aux remparts, aux portes de Sanson ou de Saint-Nicolas. Parfois je passais le vieux pont de Meuse pour me promener au faubourg de Jambes, allant jusqu'aux hauteurs de Sainte-Barbe, d'où on a la meilleure vue de la ville, poussant même jusqu'à l'abbaye de Géronsard. Je montais plus d'une fois au château avec mon neveu. Nous allions faire une prière à Saint-Pierre, et j'en profitais pour me reposer un peu, car la pente est raide, et je craignais de l'effrayer par des étouffements que je sentais remonter en moi dès que l'effort me faisait trop souffler. Je manquis du frère Inigo et de son installation, mais on me dit qu'il était parti à Bruxelles, ce qui m'étonna. Il ne m'en avait rien dit, et ce nouveau voyage ne semblait pas relever non plus de la charge ordinaire d'un frère muletier. Je vis que les jésuites, s'ils n'avaient pas encore vraiment d'établissement à Namur, semblaient y prendre pied peu à peu, à mesure que les bons chrétiens leur donnaient ou léguaient ici ou là une maison. Ils avaient leur chapelle, enseignaient le catéchisme aux frais de la ville, achetaient les biens qui semblaient utiles à leurs ambitions. On voyait nombre d'étrangers partout en ville, avec ce régiment qui prenait ses quartiers d'hiver. Curieusement, il s'agissait surtout d'Italiens, dont je ne sais s'ils étaient mercenaires ou originaires des provinces de ce pays qui relève du roi Philippe. Leurs officiers étaient en tout cas espagnols, comme les hommes de certaines compagnies. Ces troupes étaient là pour aider nos archiducs à chasser les rebelles du pays. C'est que les huguenots des soi-disant provinces unies ne manquaient pas une occasion d'y semer la guerre. Ils tombaient à l'improviste, parfois bien loin de la frontière, assiégeant une ville, ravageant une campagne, pillant partout. On entendait donc en rue parler autant l'espagnol que le français, en ce sens du moins je n'étais pas dépaysé. Je fis souvent l'interprète et passais pour grande lettrée auprès des uns et des autres qui ne comprenaient pas qu'on pût également maîtriser le dialecte en usage sur les bords de la Meuse et l'idiome pratiqué sur ceux du Manzanares. Je m'arrangeais pour dire ma messe à la paroisse Saint-Michel dans une chapelle de Notre-Dame, la même où j'avais reçu le baptême. Je consacrais 2 douzaines d'offices à la mémoire de mes parents qui reposaient là dans le désordre du cimetière entre la collégiale et le rempart de Meuse. Leur pierre tombale, toute simple, était rongée déjà. Bientôt, la gravure des noms n'en serait plus visible. Plus tard, à peine plus tard, il n'y aurait plus personne non plus pour renouveler les pauvres fleurs qui mettaient Antoinette. Quant à nos deux frères, ils avaient disparu dans la nature. Pour ce qu'on en savait, l'un s'était établi dans la campagne en terre liégeoise, et l'autre avait plus ou moins mal tourné dans ces compagnies peu reluisantes qu'on voit grenouiller à la suite des armées. À Notre-Dame, j'écoutais chanter le petit Jean, mon neveu. J'allais aussi aux offices de la chapelle musicale de Saint-Aubin, dont j'avais été jadis. Ce que j'y pouvais entendre était plus émouvant que joli. Sans doute mes oreilles étaient-elles devenues exigeantes, trop sensibles à toute fausseté des voix et rudesse des timbres. Nul ne m'y connaissait. Si j'avais pensé être accueilli avec l'admirative amitié que toute corporation témoigne à ceux des siens dont les lauriers l'honorent, et le fond de vanité que nous avons tous en nous m'en laissait l'illusion, je dus déchanter. J'avais depuis longtemps disparu de ce monde, et je dois avouer que moi-même je n'y reconnaissais personne. L'antique tradition de la maîtrise de la cathédrale avait été jusque-là chère à mon cœur, je me rendais compte brutalement qu'elle n'était plus la mienne. Il n'y eut qu'un homme qui se souvint du vicario d'autrefois, ce fut le curé Hanson à Saint-Jean. Il retrouvait en moi l'enfant de jadis, celui qui traitait en adulte les petits garçons que nous étions, les engageant généreusement pour l'agrément de ses offices. Il avait maintenant 50aine d'années et toujours la passion de la musique. J'allais le voir souvent et nous avions grand plaisir à parler. Il se souvenait d'épisodes du temps passé que j'avais oubliés, et ce qu'il me demandait de l'Espagne me changeait des habitudes questions sur les habits du roi ou les amours des infants. Antoinette me soignait aux petits oignons. Cette brave femme ne semblait n'être venue au monde que pour y faire, souvent, malgré eux, le bonheur de ses semblables. Son petit univers se trouvait, par mon arrivée, considérablement agrandi, et elle pouvait ainsi donner à cette naturelle disposition un champ d'action nouveau. La voyant un jour soupirer, s'affairant comme en son habitude, je lui dis « Antoinette, arrête-toi un peu, tu es essoufflée, tu me donnes le tournis. » Elle me regarda avec un sourire faussement gêné, s'étirant en arrière, la main sur le ventre, ainsi que font les femmes grosses. J'hésitais, car rien n'est plus gênant qu'attribuer à l'espoir d'enfant les rondeurs qu'une femme ne doit qu'à elle-même, mais je me décidai à son ton malicieux. « Tiens, tiens, ma chère sœur, me cacherais-tu quelque chose ?»«
Oui, je suis embarrassé, » fit-elle, usant de cette expression fleurie que je n'ai entendue que chez nous pour désigner cet état avantageux.
« Ce sera pour le début du printemps, s'il plaît à Dieu. Je compte bien que tu sois encore là à ce moment et que tu sois cette fois le parrain de l'enfant. D'ailleurs, si c'est une fille, nous l'appellerons Jeanne. »«
Jean, Jeanne, il est pourtant au ciel d'autres saints patrons que le mien, » dis-je en l'embrassant. « Mais j'accepte de grand cœur et d'ailleurs, je ne comptais pas me remettre en route cet hiver. »
L'automne vint, puis l'hiver. Les saisons ont ici une autre force qu'en Espagne. J'avais oublié leur rythme, leurs odeurs, leurs couleurs, et les redécouvrir à l'âge d'homme m'en donna un sentiment que je n'aurais pas eu sans cela. La constante douceur du climat est un agrément, mais je lui préfère infiniment le temps capricieux de nos pays. J'aime la pluie, ce crachin qui fait parfois se confondre des jours entiers, le gris du fleuve et celui du ciel. J'aime les vers du printemps et le départ des hirondelles à l'automne. J'aime jusqu'à l'odeur des foins dans la chaleur de l'été, bien qu'elle m'étouffe à me tuer. Pour mon retour au pays, je fus gâté en fait de sensations climatiques, car le mois de janvier 1608 fut à Namur le plus froid qu'on ait connu de mémoire d'homme. Je n'imaginais pas jusque-là qu'une froidure pareille fût possible et passer des jours entiers à grelotter auprès du feu. Beaucoup en moururent, surtout des pauvres qui ne pouvaient s'acheter le bois, devenu fort cher. On les retrouvait sur leurs paillasses, telles des statues, et on ne pouvait même pas les enterrer tant la terre était rude. La Meuse fut prise par les glaces, qu'on voit parfois, mais jamais au point de pouvoir, comme cet hiver, la faire traverser par des chevaux et des chariots pesamment chargés. Un jour que je m'étais décidé à sortir prendre l'air, en mitouflé jusqu'au bout du nez, je tombai près du vieux pont de jambes sur une bande de gamins qui, du haut du rempart, bombardaient de boules de neige quelques militaires espagnols en promenade sur le lit gelé du fleuve. Si ceux-ci n'avaient jamais vu ce prodige de l'hiver, ils étaient manifestement tout aussi peu coutumiers de ces jeux et ne savaient s'ils devaient en rire ou s'en fâcher, d'autant que la troupe enfantine avait sur la leur le triple avantage stratégique de la surprise, de la position et de la technique. Ce qui devait arriver arriva, les lois de la balistique combinées à celles du hasard firent qu'un gros projectile alla s'écraser sur le nez d'un Espagnol, non le moindre sans doute, ainsi qu'on le vit à son bel uniforme quand il s'étala d'une seule pièce dans la neige. Les enfants hurlèrent de rire, les soldats beaucoup moins. J'en savais assez de la honra espagnole pour sentir que les choses pouvaient rapidement mal tourner, d'autant que l'un d'eux avait fait mine d'armer son mousquet. Un malheur allait arriver. J'hésitais un instant et il me vint une idée. Du pont, je me mis à sauvagement pilonner les gamins, tout en leur hurlant en patois une invitation à déguerpir qui pouvait passer pour un cri de guerre. Les soldats, interloqués à ce spectacle burlesque d'un prêtre artilleur, prirent, heureusement, le parti d'en rire. Quand je leur criai en leur langue que j'étais leur serviteur, ils me firent des signes d'amitié et m'invitèrent à descendre jusqu'à eux, ce que je fis. L'officier s'était entre-temps relevé et on me le présenta comme commandant le régiment pour l'or en garnison à Namur. Capitaine Hernanque de Fuerte. À ce nom, mon sang ne fit qu'un tour. Je sentis m'abandonner la rougeur que m'avait donnée ce soudain exercice.
Hernanque, balbutiai-je. Il est à Valladolid un gentilhomme de ce nom.
Mais c'est moi-même. Comment connaissez-vous mon nom?
J'ai vécu 5 années en cette ville quand la cour s'y trouvait.
« Dieu du ciel, que le monde est petit! Ce pays est donc moins perdu qu'il n'y paraît, il s'y trouve des gens qui connaissent Valladolid et les gentilshommes qui en sont !»
Il me traita de la façon la plus aimable, avec cordialité, même quand il sut que j'étais au roi. Bien sûr, je ne lui dis rien qui pût laisser deviner son infortune, ni même l'inclination que j'avais eue pour sa femme, mais cette rencontre raviva une émotion qui ne m'avait jamais vraiment quitté. Même Antoinette s'aperçut de ma tristesse et s'en inquiéta.
Après cet épisode, le bruit courut qu'un personnage de la maison de Sa Majesté se trouvait à Namur. À cause de ce capitaine Hernanque, il me vint ainsi une sorte de notoriété que mes seuls mérites n'avaient pu faire valoir, tant il est vrai que nul n'est prophète en son pays. Je fus ainsi invité à 2 réceptions, dont le passage du gouverneur fut l'occasion. Le mailleur me reçut le premier, rapidement imité par Monseigneur Buisseret, l'évêque. Charles d'Egmont avait succédé dans cette charge à Florent de Berlaymont, mais contrairement à son prédécesseur, c'est à peine s'il passait à Namur. Ce que la ville n'était plus, comme jadis, une sorte d'îlot de loyalisme perdu dans la révolte générale, où, par la force des choses, devaient se retrouver tous les fidèles à la couronne. J'avais vu ce noble personnage en Espagne, où il était allé aussi à la suite de l'archiduc Albert. Le saluant, je ne manquais pas de le lui signaler, l'excusant de n'avoir pas si bonne mémoire que moi, qui avait été frappé par la splendeur de son équipage. J'en avais tout oublié, mais on honore ses saints comme on les connaît, et le 15e gouverneur du comté passait pour avoir moins d'esprit que de contentement de soi. Hernanque était bien sûr de la fête, comme principal représentant dans la ville de ce roi d'Espagne qui, s'il n'y régnait plus en titre, n'en était pas moins une manière de puissance tutélaire. À table, je me trouvais entre lui et un père jésuite nommé De Monin, dont j'ignorais tout, mais qui semblait, quant à lui, ne rien ignorer de moi. J'appris que le capitaine avait parlé de moi comme d'une sorte d'intime de sa majesté, et qu'il avait jugé inconcevable que je ne fusse pas logé au palais des gouverneurs. Se référer à ceux que l'on connaît un peu là où l'on est étranger, et leur donner une position qui flatte la sienne propre, est un travers bien commun, qui, du moins, me valait quelques considérations. Cela mettait mal à l'aise les échevins de Namur, nobles et grands bourgeois, qui étalaient leurs barbes fleuries sur des fraises d'un modèle qu'on avait oublié à Madrid depuis des années déjà. Si je n'avais été que musicien, les choses auraient été claires. Le ménestrel et le fou sont au roi, certes, mais on les tutoie et on leur botte le cul. Mais voilà, j'étais aussi chanoine, et ils ne me connaissaient pas, tout namurois que j'étais, quand les gens qui comptaient à table semblaient me considérer. Je m'en amusais plutôt, d'autant que j'avais en ma vie assez fréquenté de grands personnages pour n'être pas impressionné par ces gens. Je fus présenté au bourgmestre de Namur, un nommé Adrien d'Auxy, qui me posa à brûle-pourpoint une question de prime abord surprenante. « Pouvez-vous juger de la justesse d'une cloche ?»« D'une cloche, vous voulez dire d'une cloche de carillon ?»« Ben, c'est cela même. » Ben, « Sans doute, il y va du ton d'une cloche comme de celui de la voix ou de tout autre instrument. Sa Majesté, le feu roi Philippe, était fort amateur de carillon et il en a fait construire en Espagne sur le modèle des nôtres. » Malheureusement, son fils, quoique musicien lui-même, n'a pas ce goût, et on n'entend plus guère par-delà que des cloches ordinaires, celles qui appellent à messe ou à vêpres. Mais pourquoi, monsieur, cette question ? La ville vient de commander un carillon de 17 cloches auquel s'occupe un fonds de Gantois nommé Groignard. Le contrat que nous avons avec lui l'oblige à le faire selon l'art et la règle de la musique, et il est prévu qu'on le fasse visiter par un maître musicien. C'est bien cela que vous êtes, n'est-ce pas ? Certainement, ce serait un honneur pour moi de vous rendre ce service, et quand cette visite doit-elle se faire ? Grognard s'est engagé à finir son travail au plus tard 3 semaines après Pâques prochaine. Alors je vous arrête, monsieur le bourgmestre, mon congé ne va pas jusque-là, et sa majesté serait fâchée sans doute de me voir prolonger si loin, fût-ce pour la justesse des cloches de sa bonne ville de Namur. Cela n'empêcha pas le carillon de sonner, fort justement ma foi. Je fus plus embarrassé quand il fut question dans la conversation de Florent de Berlaymont. J'eus la surprise d'apprendre qu'il avait été mis aux arrêts. Pour ce que je compris, cela s'était passé peu de temps après ma visite. Chacun semblait au courant de cette nouvelle, qui n'avait cependant pas porté jusqu'au fond de la cuisine de ma sœur. Les médisances allaient bon train, mais c'est là le sort commun des absents en disgrâce. Oui, les archiducs ont été trop patients avec lui. Voilà des années qu'il conspire et qu'on ne sait à quel camp il appartient. Non, il est heureux que sa femme ait veillé aux intérêts de nos princes, dit un autre. Elle est en matière de religion d'une sûreté éprouvée. C'est une sainte femme qui, m'a-t-on dit, communie tous les jours, entendis-je même. Sainte femme, mon œil, pensais-je, s'il savait sous quelles espèces elle communie, il s'abstiendrait de dire des âneries pareilles. Mon exaspération devait se deviner, car le jésuite m'observait avec un petit sourire. « À quoi tiennent les choses ?» me glissa-t-il à l'oreille. « On brûle ce qu'on a adoré la veille, et inversement. Tenez, tout le monde a oublié que notre estimé gouverneur que voici, si fidèle à l'Espagne, est le fils même de celui que le duc d'Albe a fait décapiter pour trahison. Mais vous connaissez assez, je crois, le comte de Berlaymont. Je le connais, oui, je l'ai même vu voici quelque temps, en venant d'Espagne. On m'a dit cela. Votre fréquentation serait-elle à ce point dangereuse ? Mais non, je plaisante. Dites-moi, vous qui donc le connaissez, pensez-vous que ces accusations de rébellion aient quelque fondement ? Je m'y entends fort peu aux affaires d'État, répondis-je prudemment. Oh, vous êtes trop modeste, je sais ce que notre ordre vous doit. Je ne savais ce que ces propos devaient à la sincérité ou à l'ironie. Je fus presque soulagé d'être relancé par le capitaine Hernanque, qui peinait à suivre cette conversation dans une langue étrangère, mais s'était tombé de Caribe dans Scylla, car il entreprit de me parler de son épouse. « Voyez-vous, l'abbé, elle me manque bien, c'est la plus belle femme de la ville. Peut-être l'avez-vous vue, elle a plus la façon de femme d'ici que de celle d'Espagne. » Peut-être c'est qu'il y avait bien du monde à Valladolid quand la cour y était, et puis n'allez pas me faire croire que les curés ne regardent pas les femmes. Bah, d'autant que je suis arrivé à Valladolid avant que d'être prêtre. Vous me direz qu'il n'est pas prudent de la laisser seule ainsi, mais je ne suis pas inquiet. Si elle me trompait, je la tuerais sur le champ, et elle le sait. Qu'aurait-il fait si je lui avais tout dit? Je pensais à mon ami Contreras qui n'avait guère tergiversé en voyant son infortune. Hernanque avait-il le même tempérament? Je rêvais un instant à l'occasion de vengeance que le hasard faisait passer devant moi, au bras que d'un mot et de loin sans péril je pouvais armer contre elle et Nicolas. Mais ce n'était qu'une idée comme il en vient en tête 100 par jour et qui nous font faire le monde à notre fantaisie. Elle passa plus vite que l'image de ses yeux à elle, obstinément fixés sur moi à l'instant où je prononçais mes vœux dans cette cathédrale. Certains animaux engraissent à l'automne, engrangeant tant qu'ils peuvent les réserves dont ils vivront à la mauvaise saison. Antoinette fit l'inverse et grossit à vue d'œil tout au long de l'hiver. Elle qui, en temps normal déjà, arborait les fières rondeurs qui sont la marque de notre famille, devenait de jour en jour plus joufflue, fessue et mamelue, et comme l'enfant qu'elle portait ne pouvait peser 50 livres, point n'était besoin d'être disciple d'Esculape pour deviner que son appétit excédait largement les exigences de son état. Elle n'aimait pas qu'on lui fît cette remarque, fût-ce en badinant, et trouvait au contraire dans sa maternité prochaine des impératifs qui, par indulgence spéciale, l'absolvaient d'avance de tout péché de gloutonnerie. Ce que la nature voulait qu'il arrivât advint donc. Elle fut prise des douleurs au matin du 21 mars. Mon beau-frère Simon n'eut guère l'occasion de se morfondre en se rongeant les sangs, sort commun du géniteur mis en quarantaine par les insondables mystères du corps féminin. À peine eut-il été chercher la sage-femme qu'Antoinette était délivrée, tant il est vrai qu'elle pondait marmots comme pétait Léonard son époux, métaphore triviale que je n'oserais citer si elle n'était de son cru. Ainsi naquit Jeanne, ma nièce et filleule, au premier jour du printemps de l'année 1608. Était-il plus beau jour que celui-là pour figurer la promesse d'une naissance? Je recueillis l'enfant en mes bras et la bénis. Je n'avais jamais porté de nouveau-né, j'en fus profondément ému. Je devinais sans doute que cette petite fille serait un peu l'enfant que je n'aurais jamais. Le printemps revint vite cette année-là, amenant sur toute la terre, hommes, bêtes et choses, un sentiment de délivrance à la mesure de ce qu'avait été la rudesse de l'hiver. Il me fallut penser à repartir. Sans doute n'avait-on pas fixé de terme précis à ma curieuse mission, mais on ne m'avait pas pour autant invité à la prolonger sans raison. Déjà le frère Inigo s'était enquis de mes intentions, et il avait beau se montrer docile et déférent, je sentais bien qu'il aurait été ennuyeux que je m'éternise à Namur. Je m'étais un peu inquiété des dispositions que j'aurais à prendre, mais mon jésuite s'était évidemment occupé de tout. Son ordre avait gardé les mules, du moins les deux qui avaient survécu, la troisième étant crevée de froid, mais il nous donnait à la place deux bonnes juments. Elles étaient heureusement fort tranquilles, car je ne me suis jamais fort bien entendu avec les chevaux. Il avait aussi reçu de l'or pour notre voyage, cela tombait à pic vu que le trop peu qui m'en restait m'aurait contraint à une laborieuse économie. Je fixai notre départ au premier lundi d'avril, m'accordant un dernier répit dont je résolus de remplir de bonne heure, chaque minute. Hélas, le temps est cruel qui détricote chaque maille avec une infaillible précision, et le jour donc arriva bien vite avec ses adieux et des promesses de retour. On avait dit à Inigo de rentrer par la route d'Espagne pour nous faire moins remarquer. C'est là le chemin ordinaire pour aller par-delà, même en temps de paix avec le royaume de France, que l'on contourne par la Lorraine, la Franche-Comté et la Savoie, pour généralement s'embarquer de Gênes à Barcelone. Je ne dirai guère de ce voyage qui ne comporta rien de remarquable, dans sa première partie du moins. La route ne fut point mauvaise, mais n'eut pas, loin s'en faut, l'agrément de l'allée. Le pays est morne souvent, et il faut traverser vers la fin des montagnes, plus hautes encore que les Pyrénées. Beaucoup de troupes amies remontaient en bon ordre vers les Pays-Bas, mettant un peu d'animation, partant pour cette nouvelle campagne qui avait amené déjà un régiment à Namur. je ne pouvais me départir d'une sorte de langueur sans cause véritable. Certes, je regrettais déjà les miens, mon pays, ma petiote, mais j'aspirais aussi à retrouver ma place à la chapelle, et je me connaissais assez pour savoir que cette mélancolie ne m'était pas naturelle. La sourde anxiété que j'avais de ces puissances dont j'étais le jouet n'y était sans doute pas étrangère. Il nous fallut 4 semaines seulement pour arriver à Gênes, ce grand port d'Italie qui, comme on sait, est au pouvoir de l'Espagne. Un galion de l'armée de Sa Majesté catholique était prêt à appareiller et pouvait nous prendre à son bord avec nos montures. Je saisis l'occasion, un peu marri toutefois, de ne pouvoir rien voir de cette ville que j'aurais aimé visiter. Je ne craignais pas la mer. N'avais-je pas fait jadis en naviguant de Calais à Santander mon premier voyage d'Espagne, et avec Nicolas n'étais-je pas alors un des seuls que la tempête ne rendit pas malade? La navigation était ici moins périlleuse, la Méditerranée est plus hospitalière que l'océan, même si, paraît-il, il ne faut pas s'y fier. Surtout la traversée était moins aventureuse, on ne perd que rarement la côte de vue, si ce n'est au-delà de Marseille quand il faut couper au large vers la Catalogne. Il n'y eut jamais cette fois de tempête, mais une belle mer et un petit vent arrière faisant courir à belle allure le lourd navire. En courant ainsi sur la mer, je me prenais à songer à Contreras, qui en connaissait chaque récif, qui en avait même dressé la carte. Peut-être serais-je moi aussi emporté dans quelque aventure, mais rêve que tout cela, pas l'ombre d'une flûte barbaresque et pas même le bout de la voile d'un turc. Je profitai donc pleinement de la traversée, à l'inverse d'Inigo, à qui la houle, pourtant légère, faisait rendre tripes et boyaux. Ainsi donc, il avait aussi son talon d'Achille, cet homme qui pouvait également lancer le couteau, soigner un cheval, parler toutes les langues d'Europe, et sembler en toute chose modestement étranger aux humaines faiblesses. Je goûtais à cette découverte comme un sentiment de réparation, un chatouillement de contentement, somme toute peu chrétien. Je comptais bien me reposer quelques jours à Barcelone, que je ne connaissais encore que de réputation. C'est là une des principales villes du royaume, si du moins on prend le parti de considérer ses habitants comme sujets du roi Philippe, idée qu'eux-mêmes ne supportent qu'avec peine. On y parle une langue fort différente du castillan, à laquelle je n'entends goutte. Du reste, Barcelone est prospère, son séjour agréable, et on y devine une liberté d'esprit qu'on ne sent guère ailleurs. L'ombrageuse fierté espagnole cède ici le pas au plaisir simple qu'ont les gens à se retrouver, à se promener et à deviser librement, ou même à danser la sardane en cercle sur les places. Ce séjour dont j'espérais grand plaisir fut contrarié à son corps défendant par le frère Inigo qui parut soudain bien malade. Tant qu'on était en mer, sa petite mine était dans l'ordre des choses, l'ennui est qu'il la garda sur le plancher des vaches et resta alité dans la maison où ceux de son ordre nous hébergeaient. Je dus en prendre mon parti et me promener sans duègne. Bientôt, les recoins de la cathédrale n'eurent plus de secret pour moi. Je savais par le menu le supplice de Sainte Eulalie, patronne de la ville. J'avais goûté même aux viandes grillées de tous les marchands, mais mon jésuite était toujours malade, sans sembler aller mieux ou moins bien. « Je ne sais ce dont je souffre, me dit-il après une semaine, mais je crains de trop vous retarder si même le Tout-Puissant m'accorde la guérison. » Il vaut mieux peut-être que vous rentriez seul à Madrid, la route facile, vous pourrez la faire sans moi. Qu'il en soit ainsi, lui dis-je, je prierai pour votre santé la Vierge Noire de Montserrat. Nous avions en effet prévu de monter en pèlerin jusqu'à l'abbaye fameuse des moines bénédictins, célèbre dans toute l'Espagne et qui ne se trouve qu'à une journée de Barcelone. Je fis donc mes adieux à Inigo et repartis seul à l'aube du lendemain. J'espérais arriver tôt assez à Montserrat pour entendre les petits chanteurs de la Escolania chanter le salvé du soir ainsi qu'ils font depuis des siècles. Montserrat est un des endroits les plus saisissants que je vis en ma vie. Ce mot signifie « mont scié » et on ne saurait en effet mieux nommer les falaises abruptes de cet étrange et gigantesque entassement de rochers. Les pèlerins y vont nombreux, ils n'arrivent au sommet que par un long chemin, raide et malaisé, mais reçoivent là-haut en pleine face le sentiment de la grandeur de Dieu. Il n'est pas étonnant que l'abbaye soit si puissante et ait suscité tant de vocations, jusqu'à celle de celui qui fut pape voici un siècle d'ici sous le nom de Jules II. J'entendis donc chanter la maîtrise. Elle n'est pas meilleure qu'ailleurs, mais tout concourt à ce qu'elle procure une rare impression. Le caractère du lieu, la beauté solennelle des offices et surtout les musiques, qui sont d'un genre qu'on ne fait plus depuis les temps lointains, mais dont la simplicité a comme un pouvoir d'envoûtement. En voyant les moines de Montserrat, je pensais encore à Contreras, religieux un peu malgré lui celui-là, et il me vint une idée. J'étais seul maintenant, je n'avais de compte à rendre à personne, et ma route devait passer non loin du lieu où il devait encore se cacher. Pourquoi ne lui rendrais-je pas visite? J'avais retenu qu'il était près de la ville d'Agreda, place forte qui fait frontière entre l'Aragon et la Castille. Je m'informai de la route, c'était à peine un détour. Au lieu de prendre à Saragosse la route de Madrid, il me suffisait d'emprunter celle de Valladolid. Il n'était pas difficile ensuite de couper vers le sud, j'y perdrais 2 jours tout au plus. À quelques jours de là, j'arrivai donc à Agreda, petite ville un peu écrasée par les hautes montagnes du Moncayo qui ferment tout l'horizon du côté du Midi. C'est dans cette sierra que devait se trouver notre ermite. Comme je ne me voyais pas battre toute la campagne pour le retrouver, j'allais me renseigner au couvent franciscain. Si nous connaissons Alonso, mais qui, à Agreda, ne connaît Fray Alonso de la Madre de Dios? C'est un saint homme. Si seulement nous étions samedi ou dimanche, vous le trouveriez en ville, mais le reste du temps, il est dans sa montagne. Ainsi donc, mon ami passait pour un saint homme. Je souriais dans ma barbe, songeant à la tête que feraient ses petits frères s'ils apprenaient que leur ermite avait aussi dans sa vie assez d'infidèles et même de chrétiens pour remplir 2 couvents comme le leur. On m'indiqua le chemin, qui n'était pas bien difficile, et je montai dans la sierra. Ce n'était pas loin. Au détour d'un chemin, j'entendis bientôt chanter, tandis que résonnait le bruit d'un marteau. C'était la voix de mon ami. M'approchant, je le vis perché sur une cabane entourée d'arbres rabougris, cabane dont, apparemment, il était occupé à rafistoler le toit. Je l'observai un moment sans qu'il me vît. Il avait la barbe hirsute et portait une robe de bure. « Hola, saint homme !» lui criai-je. « Donnerez-vous un verre de vin à un pauvre voyageur ?»« Du vin, je n'en ai point, mon père, mais l'eau de la Sierra est claire, et vous en boirez une outre pleine si c'est votre plaisir. » Fray Alonso, jamais je n'ai bu avec vous l'eau des fontaines, dont vous m'avez dit un jour qu'elle était bonne aux femmes et aux mulets. Je serai marri de devoir commencer aujourd'hui. Mais ça alors, Juan, mon ami, que fais-tu ici? Viens que je t'embrasse. Je lui expliquai mon voyage, m'enquis de son installation. Il paraissait à la fois ravi et un peu inquiet de me voir. Tu es seul? Tu n'as pas été suivi? Ben, je suis seul en effet, mais tu n'es pas difficile à trouver. Apparemment, tout le monde te connaît en ville, et il n'est nul besoin de me suivre pour te dénicher. On me connaît, mais pas pour ce que je suis, et il vaut mieux qu'on me voie, car ce mystère attirerait bien plus l'attention. Mais je n'ai pas l'habitude de recevoir des prêtres étrangers, surtout montés à cheval. Ne t'inquiète pas, parle-moi plutôt de toi. N'es-tu pas trop malheureux ici? Fis-je en désignant avec embarras sa misérable installation. Malheureux, tu n'y songes point, je suis plus joyeux que Pâques fleurie, et je ne demande qu'une chose, c'est qu'on me laisse en paix ici jusqu'à la fin de mes jours. Il m'expliqua qu'il allait tous les jours entendre messe au couvent des franciscains. Le samedi, il allait en ville et demandait l'aumône. Je ne prends pas l'argent, mais seulement l'huile, le pain et l'ail dont je me nourris. Le dimanche, je me confesse et communie. Souvent, les moines me font manger avec eux. Ils voudraient que je me fasse religieux et que je m'établisse dans leur maison. Fray Alonso de la Madre de Dios, c'est ainsi qu'il me nomme, fit-il d'un air attendri. Je passai avec lui la longue soirée de ce début d'été et dormis dans sa cabane. Nous causâmes longtemps, nous réchauffant à un grand feu de branches. Cet homme était vraiment étonnant. Il avait connu tout ce que la vie en ce siècle peut produire de fureur et de dérèglement, et voilà que du jour au lendemain, il se trouvait parfaitement heureux dans la peau d'un homme qu'on eût cru promis à une béatification prochaine. Je le quittai au matin. À peine rentré à Madrid, j'allais apprendre qu'au lendemain de mon départ, Contreras devait recevoir d'autres visiteurs. Une troupe d'hommes armés monta en effet jusqu'à son ermitage et, sans un mot d'explication, l'emmena ligoté jusqu'à Agreda. Avec eux se trouvait un jésuite qu'on ne connaissait pas en ville. Le corregidor le jeta en prison sur l'accusation incroyable qu'il avait voulu se faire proclamer roi des Morisques en vue d'un soulèvement général. Je courus chez le frère Hieronimo dès que j'en eus l'occasion et lui contai les péripéties de mon voyage. « Mon pauvre Jean, me dit-il, tu as été le parfait dindon de la farce. Je crois qu'on s'est servi de toi comme d'un apôtre du premier au dernier jour. » Le franciscain savait déjà l'arrestation de Contreras, je lui appris celle du comte de Berlaymont, et ce que je n'osais m'avouer lui paraissait évident, les deux seuls amis que je pouvais avoir en dehors de la chapelle ne devaient leur infortune à nul autre que moi. Je niais en vain l'évidence, mais j'étais seul à Gréda. Ton frère Inigo, que tu avais laissé à Barcelone, n'était sans doute pas plus malade que moi. Il se doutait bien que tu irais seul là où tu n'aurais osé te rendre avec lui, il t'aura suivi, voilà tout. D'ailleurs, les déchaussés du monastère parlaient d'un jésuite. Pour Contreras, c'est possible, mais Berlaymont, je l'ai rencontré par hasard, et puis lui n'a rien à voir avec l'Inquisition. Il complotait, n'est-ce pas? Toi, tu n'y es pour rien, mais tu lui as fait des confidences, ton jésuite l'a vu, et il ne pouvait savoir si tu lui parlais de religion ou de galanterie, cela suffisait. D'autant remarquai-je qu'à peine arrivé à Namur, Inigo était reparti pour Bruxelles. Allons, leur pêche n'aura pas été si mauvaise. Tu es sûr de n'avoir compromis personne d'autre? À part Marguerite de Valois, je ne vois pas. La fin première de mon voyage m'apparaissait de plus en plus clairement. Je repris ma place à la cour. Rien n'avait vraiment changé, mais je voyais maintenant toute chose d'un autre œil. Le roi Philippe était toujours friand de fêtes et de bals. Je me découvrais quelque affection pour ce prince que j'avais connu enfant. Sous ses airs de divinité inaccessible, il était somme toute un homme comme les autres, dont la majesté cachait mal le sentiment de sa propre faiblesse. À défaut d'une quelconque supériorité, du moins sa peau rose et ses cheveux clairs de gros allemands le distinguaient-ils des grands de la cour. Philippe III était pieux, entendant deux messes par jour et demandant la bénédiction de tous les moines qu'il pouvait croiser. À l'inverse du roi de France, c'était un modèle de vertu conjugale et pris de sa jeune femme, Marguerite d'Autriche, et toujours auprès d'elle. Ne lui avait-elle pas fait plus d'infants et d'infantes que son père, en son temps, n'avait conçu d'enfants auprès de trois reines et d'innombrables maîtresses? Ce prince n'eut en son règne que deux desseins qui lui furent propres, car tous les autres lui furent dictés par ses ministres. Le premier, bien innocent, fut de faire tenir pour dogme la croyance en l'Immaculée Conception. Cette idée curieuse fut pour lui une obsession constante et il envoya à Rome pour la faire valoir des armées de messagers. La seconde de ses manies était sa haine des morts, dont il me sembla à mon retour qu'elle l'avait crue et embellie. On lui prêtait l'intention de les faire chasser jusqu'au dernier, et petit à petit, l'idée faisait son chemin. C'est qu'à force d'être répétée, la pire énormité prend l'air d'une opinion comme une autre, et la plus folle extravagance vient dans l'ordre des choses. Je pensais m'enquérir du père Cano, principalement pour lui rendre compte de l'argent reçu pour le voyage, dont il me restait une bonne somme. Je n'eus pas cette peine, un billet me parvint, où il me remerciait des services rendus à son ordre et à l'Espagne, rendait hommage à l'efficace prudence avec laquelle je m'étais acquitté de ma délicate mission, et me priait de garder par devers moi, pour prix de mes services, le peu d'or que d'aventure il pouvait me rester. Je conservais donc, non sans quelque gêne, ces sortes de deniers d'un Judas malgré lui. Comme par ailleurs j'avais laissé s'accumuler durant 6 mois le produit de ma prébende d'ivoire et ma pension sur la chevêché de Cordoue, je me trouvais soudain plus riche que je n'avais jamais été. Je retrouvais avec joie mes collègues Mathieu Romarin et Philippe Dubois. Ils avaient l'air un peu étonnés de me revoir, comme s'ils s'étaient fait à l'idée que je ne reviendrais pas. Je leur parlais du pays, je leur dis combien différait le souvenir d'enfance que nous en gardions et ce qu'il était vraiment. Ils m'écoutaient, me posaient des questions, mais semblaient résignés à n'y retourner jamais. Quand je leur racontais la froidure, les chariots qu'on tirait sur le fleuve, ils avaient l'air incrédules, comme ces Africains qui traitent de menteurs qui leur dit qu'à l'hiver, l'eau peut se changer en pierre. Je vis aussi Nicolas, hésitait à lui parler. C'est que la rencontre que j'avais faite à Namur aurait pu l'intéresser, l'inquiéter aussi sans doute. Finalement, je n'en fis rien. Sa position à la chapelle semblait mieux assurée que jamais. Il composait activement, plus qu'aucun de ses collègues à ce temps, et de fort belles choses. Quant à la chapelle, elle devenait décidément de moins en moins flamande et de plus en plus espagnole. On n'avait pratiquement plus recruté de chantres aux Pays-Bas depuis qu'il n'était plus au roi, et les derniers petits chanteurs avaient mué. Dans 10 ou 20 ans sans doute, s'en serait fini de cette époque que nous avions connue. Nous avions tous environ 35 ans à cette époque. Le temps de la jeunesse s'était doucement envolé. Le ventre nous venait, avec quelques renommées, et la couleur de vanité qui souvent s'y mêle. Nos cheveux, par contre, nous abandonnaient, comme les illusions, comme aussi pour certains la santé. Je trouvais mauvaise mine à Dubois. En ce qui me concerne, je connus cet été-là la plus grande avancée de mon mal. À quelques mois de là, on rit beaucoup à la cour des amours du roi de France, et spécialement de cet épisode que je conterai pour ce qu'il eut d'effet détourné sur le cours de ma vie. Henri le IV n'avait jamais été en Espagne en odeur de sainteté. On pourrait même dire qu'il sentait assez le fagot. Converti, bon, on le disait sans doute, mais n'était-ce pas à la façon de ces conversos qu'on pourchassait chez nous? Non, l'ancien huguenot restait le dragon noir de l'Apocalypse, et l'un de ses propres prélats, l'évêque de Senlis, avait parfaitement résumé l'opinion espagnole en proclamant en chaire qu'Henri avait couché avec notre mère l'Église et avait fait Dieu cocu. Cette inimitié était d'autant plus vive que la défaite d'Ivry était restée dans les mémoires et que la paix de Vervins, si elle ne scellait pas une défaite, n'avait somme toute guère été à l'avantage de l'Espagne. Aussi, quand on raconta que le vieux roi avait été foudroyé par les charmes d'une demoiselle qui n'avait pas 15 ans encore, on fit les gorges chaudes. Ce genre d'épisode se colporte avec délectation et les détails s'en répandent comme poussière au vent, portés par les lettres des diplomates, les récits des voyageurs et la force de l'imagination. La belle était la fille du vieux connétable de Montmorency et avait pour petit nom Charlotte. La reine l'avait mise en nymphe de Diane avec les plus jolies filles de la cour dans un ballet qu'elle faisait répéter pour les fêtes de carnaval et qu'on devait danser à l'arsenal à carême prenant. Le roi errait donc dans les coulisses et l'avait surprise à demi nue, levant son javelot comme si elle l'en voulait percer. Elle avait fait cela si gracieusement qu'effectivement il en fut blessé au cœur et pensa s'évanouir. Il resta 15 jours cloué au lit par une attaque de goutte, à rêver à la belle, tandis qu'on lui lisait l'Astrée, roman du cieux d'Urfée, dont chacun à la cour louait le mérite. Nymphe et satyre, Henri voulut conclure l'églogue sur le champ, entreprit la belle et voulut lui lutiner le Sénégal, comme on dit joliment à Paris, pour nommer l'intimité de la femme, parce que le thermomètre qu'on y plonge monte généralement au degré indiqué par ce mot. Mais elle se récria, elle était trop jeune et d'ailleurs promise à Bassompierre, beau chevalier d'illustre famille, à sa majesté. Qu'à cela ne tienne, il fit rompre les fiançailles et, pour mieux la voir en son pouvoir, résolut de marier la nymphe à son neveu le prince de Condé. Celui-ci n'avait que 17 ans. Maussade, timide, il passait pour inverti, ce qui laissait espérer une complaisance que n'aurait pas sans doute un époux ordinaire. Le mariage se fit, et le vieux coq devint plus fou que jamais, changeant sans cesse d'habit, se parfumant, se taillant la barbe, se lavant même. On le vit soupirer sous le bâcon de la belle et se déguiser en valet de chambre, en flamand, se couvrir même d'un emplâtre la moitié de la figure, tout cela pour seulement l'approcher. Toute la cour s'en divertit, et avec elle toute la France, hormis la reine Marie, qui était près d'accoucher. Elle se voyait déjà répudiée pour cette jeunette, craignait même pour sa vie, au point de se faire cuisiner dans sa chambre par peur du poison. Cependant, le prince de Condé se montra moins accommodant que prévu et courut cacher sa femme dans ses terres. Le roi lui poursuivit, faillit se faire arrêter comme bandit de grand chemin tant il avait mauvaise mine, et trouva habile de se mettre en veneur de sa meute pour lui envoyer des baisers sous sa fenêtre. Finalement, comme la belle commençait à donner des signes d'émotion, Condé s'enfuit avec elle vers les Pays-Bas. Il échappa aux poursuivants lancés à ses trousses et parvint à la cour de Bruxelles. Le vieux galant en fut désespéré. S'il faut en croire les poètes, il fondait en pleurs, la scène en fut émue, ses nymphes se cachèrent, et l'herbe du rivage où ses larmes touchèrent perdit toutes ses fleurs. C'est à ce moment à peu près que la toccade du roi de France déborda la romance pour toucher aux affaires d'État. Henri envoya une ambassade aux archiducs pour qu'on lui livrât le prince et son épouse. Il se fit éconduire et menaça de faire la guerre, s'y prépara même, comme s'il était au printemps de son âge, alors qu'il approchait de 60 ans, ce qui est au moins l'automne des plus forts, et que le cours ordinaire de la vie des hommes devait le faire penser à sa fin. Cette affaire qu'on raconte en une page s'étala sur plus d'une année, et il ne se passa guère de semaine sans qu'il en arrivât à Madrid un épisode nouveau. C'est qu'il se faisait de part et d'autre des Pyrénées grand trafic d'espions, et qu'il ne devait guère se dire de choses à Paris dont on ne fût averti aussitôt au conseil espagnol. L'inverse, faut-il le dire, était vrai aussi. L'ambassadeur Don Pedre n'avait-il pas dit que le roi de France était plus que le diable, qu'il avait appris de sa bouche des choses qu'il ignorait du conseil d'Espagne? Monsieur de Vaucela, l'ambassadeur de France, était en tout cas moins au fait de ce qui se disait chez son roi que celui du grand-duc de Toscane, lequel tenait ses informations du parti espagnol à Paris. Tantôt donc, c'était l'ambassadeur Don Inigo de Cardenas qui s'alarmait, faisant, comme on devine, ses choux gras d'une telle aventure, s'attendant chaque jour à voir Henri marcher sur Bruxelles avec un gros de cavalerie. Tantôt, l'archiduc lui-même consultait son cousin d'Espagne. Pour corser les choses, il était venu à Jean-Guillaume le Bon, duc de Clèves, Julier et Berg, comte d'Ufrac et de Ravensberg, seigneur de Ravenstein, la mauvaise idée de mourir sans héritier le 15 mars 1609 et sa succession divisait les rois. L'Espagne et l'Autriche voulaient pour un des leurs ces terres qui touchaient aux Pays-Bas et aux Provinces-Unies, tandis qu'Henri se faisait contre elle l'allié des princes allemands, l'électeur de Brandebourg et le palatin de Neubourg. Du moins, cette querelle qui s'en veut donnait-elle plus noble tournure aux humeurs belliqueuses du roi de France. La guerre fut d'autant plus certaine que depuis des années, disons, le principal ministre d'Henri, nommé Sully, nourrissait de grands desseins dans la combinaison des États en Europe et accumulait à cette fin richesses et armées. Ce ne fut qu'au cours de l'été 1609, soit plus d'un an après l'avoir quitté, que je reçus des nouvelles de ma sœur. Elle avait écrit deux fois déjà, mais ses courriers apparemment s'étaient perdus. Cette lettre, outre qu'elle me rassurait sur la santé de ma petite filleule Jeanne, m'apportait quelques nouvelles d'importance. Ma sœur m'apprenait que la maison familiale était à vendre. Cette vieille demeure de pierre grise où j'étais né, où vivait encore ma famille, ne nous avait à vrai dire jamais appartenu. De tout temps, nous nous l'avions tenue à bail, et voici que ses propriétaires, Georges Ducamp et son épouse Catherine de Vaudon, voulaient s'en défaire pour le motif qu'ils avançaient en âge et que le revenu qu'ils en percevaient ne leur suffisait plus. Antoinette me consultait à cet égard, mais je sentais bien qu'elle aurait voulu me la faire acheter. Elle craignait, elle qui avait charge de famille, de ne pouvoir débourser les 7 florins de rente annuelle qu'on en demandait, mais qui n'était sans doute que peu de choses pour moi qui étais au roi. Elle me vantait aussi l'avantage que je trouverais à une maison qui fût mienne, dès que je serais rentré pour de bon au pays, ce qu'elle avait espérance de voir advenir bientôt. Pour le reste, on se réjouissait fort à Namur de la trêve de 12 ans qu'on venait de signer avec les Provinces-Unies et qui s'était faite à peu de choses près au jour de mon départ. Cela ne s'était pas fait sans de grandes discussions de diplomates. Les ambassadeurs de France et d'Angleterre avaient même couru jusqu'à Haye, et si on n'avait pas conclu de paix véritable, c'est parce que l'Espagne n'avait pu obtenir que la liberté du culte catholique fût reconnue en ces provinces qui, somme toute, étaient siennes avant que l'hérésie s'y installât. On n'aurait donc pas la guerre, en tout cas pas celle qu'on attendait. Les troupes espagnoles, accourues nombreuses aux Pays-Bas, n'auraient servi à rien, sinon à donner la frousse à ces maudits hérétiques et à les décider à la paix, me dit-elle. Il me fallait prendre un parti au sujet de notre maison. J'avais bien l'idée d'y retourner vivre un jour, mais il n'était guère raisonnable de m'engager sur une aussi vague perspective. D'autre part, j'avais maintenant quelques ressources et je me plaisais à l'idée d'en faire profiter Jeanne et Jean. Ils seraient un jour sans doute ma seule famille et je me sentais de ce fait plus de devoir envers eux que d'ordinaire on en a pour de simples neveux. Antoinette m'informait aussi de ce qu'on avait vu reparaître à Namur le comte de Berlaymont. Il avait été libéré mais démis de sa charge de gouverneur du Luxembourg. Elle s'en battait l'œil, m'écrivait-elle, mais pensait me faire plaisir, car elle me savait de l'affection pour ce prince, bien que ses promesses ne fussent que du vent, comme sont d'ordinaire paroles de ces gens. Quelle qu'ait pu être sur ce point l'opinion du frère Hieronimo, je ne m'étais nullement senti responsable des désagréments du comte. Je l'avais rencontré par hasard, il m'avait entretenu de ses manies sans que je lui demande rien, et s'il s'était retrouvé en prison, il le devait infiniment plus sans doute à sa femme qu'à moi. Il était injuste de me faire endosser cette affaire, même si mon compagnon de voyage pouvait être soupçonné d'en avoir été le cours. Pour Contreras, par contre, force m'était d'en venir, j'avais été imprudent, et ce d'autant plus que ses ennuis m'étaient moins étrangers. Je m'en inquiétais davantage. Encore une fois, c'est le franciscain qui s'enquit de son sort et put m'en instruire. Cet homme avait décidément des moyens peu communs. Il est vrai que son ordre comptait plus de 20 000 religieux en Espagne et que peu de secrets devaient échapper à tant de paires d'yeux et d'oreilles. « Contreras, c'est à Madrid, me dit-il un jour. On l'a ramené d'Agreda. Il est dans les prisons du roi, et non dans celles du Saint-Office. De quoi l'accuse-t-on ? C'est apparemment toujours cette histoire d'armes morisques à Ornacos. Le capitaine qui avait caché l'affaire l'accuse pour se défendre. On l'a questionné, assez rudement à ce qu'il paraît. C'est un homme courageux, il n'avouera pas des crimes qu'il n'a pas commis. Hieronimo fit la moue, tu te souviens ? La garula, la poro, la toca. Mais j'avais raison, Contreras n'avoua pas. L'éphémère Fray Alonso de la Madre de Dios fut relâché après peu de mois, et on le revit à Madrid, non plus en robe de bure, mais de nouveau vêtu en soldat, l'épée au côté, et au chef un incroyable chapeau tout de plumes et dentelles. Il ne m'avait gardé nulle rancune. « Ah, Dieu n'a pas voulu de moi pour le servir, voilà tout, tu n'y es pour rien. Crois-moi, Juan, chacun doit honorer le Seigneur selon ses talents, et décidément, le seul qu'il m'ait donné, c'est justement d'être soldat. Je le serai donc, et je mourrai ainsi. » Devant ses juges, il s'était défendu comme un beau diable, faisant même rechercher les soldats de sa compagnie pour témoigner de sa bonne foi, confondant son accusateur, dont l'affaire devenait du coup mal engagée. Les choses étaient éclaircies, il n'avait plus à fuir et s'apprêtait donc à reprendre du service. « Figure-toi qu'on me propose une compagnie dans ton pays !»« Comme cela, il part encore des troupes pour les Flandres ?»« Pas du tout, on veut que je me mette au service de l'archiduc Albert, comme s'il n'y avait pas de capitainerie vacante en Espagne, mais je crois que je n'ai pas le choix, je vois bien qu'on préfère me voir loin d'ici. Le gredin qui m'accusait a compromis trop de monde. » Il m'interrogea longuement sur les Pays-Bas, où il n'avait jamais mis les pieds, inquiet surtout de ne pas connaître un traître mot des langues qu'on y parle. Je lui en fis bien sûr un tableau flatteur, nous disant qu'un jour peut-être nous nous y retrouverions. Il partit pour Bruxelles, à peu de temps de là, non point par terre comme j'avais fait, mais bien par mer, comme il sied à un marin. Une fois de plus, nos routes s'éloignaient, et cette fois dans des sens contraires à toute logique. Devait-elle un jour se croiser à nouveau ? En s'embarquant à Saint-Sébastien, Contreras était porteur de 2 courriers importants. Une lettre de recommandation de Sa Majesté invitant l'archiduc à lui conférer une compagnie et un acte de Jean Dufond donnant mandat au notaire Guillaume Ramet d'acquérir pour son compte à Namur la maison des consorts Camp et Vaudon avec 7 pièces d'or à leur compter pour première année de rente. Je m'étais donc résolu à cette acquisition, décision de notable portée quant aux prochaines saisons de ma vie. N'était-ce pas à bon augure que l'émissaire chargé d'y veiller fût mon ami ? Contreras s'acquitta de sa mission, comme en témoigne tact daté du 2 septembre 1609, qui transporte à mon profit une maison Notre-Dame joignant d'un côté aux héritiers feu Bertrand Bertrand et de l'autre à Estienne Dupin et Frédéric Tyran en dessous du château.